Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
B-52, c'est la première série de l'affaire. Une histoire de trafic de coke, l'arrestation d'un baron de la drogue qui a été traqué pendant plus d'un an par les stupes entre la Colombie et Bayonne. L'affaire d'une vie pour Antoine.
Bosser sur le cartel colombien et sur Medellin quand t'es au stup, c'est carrément un fantasme.
Un flic français qui, entre 2015 et 2016, va travailler avec le FBI, la DEA, les stupes colombiens et espagnols pour arrêter le neveu de Pablo Escobar.
Là, je donne le top départ à toutes les équipes en place, à la DEA aux États-Unis. En gros, en simultané de notre pétage, il va y avoir un pétage à Chicago, à Miami, en Colombie, à Washington, à Los Angeles, en même temps. On a tout verrouillé de notre côté.
Cette opération B-52, cette histoire de dingue, c'est Antoine qui nous la raconte dans ce podcast, avec tout ce qu'elle a représenté pour lui et ce qu'elle lui a coûté aussi. L'aboutissement d'une carrière de flic et son impact sur une famille.
Et côté couple, comment t'es accueilli par ta femme ce 4 décembre 2016 ?
Par des papiers de divorce.
B-52, c'est une série en 8 épisodes, écrite par Constance Villanova, réalisée par John Bose et produite par Anne-Cécile Kiri. Bonne écoute.
Mercredi 30 novembre 2016, 18h30. Les roues d'un avion touchent le tarmac de l'aéroport de Biarritz et glissent dans la nuit. Le jet privé arrive de Cartagène en Colombie. Ses passagers, des hommes tout endimanchés, descendent en traînant de grosses valises noires derrière eux. L'un d'entre eux est habillé en blanc, Panama vissé sur la tête, flanqué de ses hommes de main. L'avion, lui, repart aussitôt. Des voitures aux vitres teintées attendent cette délégation. Direction Bayonne. Une quinzaine de minutes plus tard, coup de frein devant un hangar. Les hommes de Cartagène descendent et pénètrent dans l'entrepôt. C'est là, dans cette zone industrielle, que le piège se referme. À l'intérieur du bâtiment, plus d'une tonne de cocaïne gérée par le neveu de Pablo Escobar lui-même. Une cargaison importée par le cartel de Medellín. À l'extérieur, une flopée d'agents des stupes, agglutinés, qui n'attendent qu'une chose depuis un an, donner l'assaut final pour faire tomber ces narcotrafiquants. Ce 30 novembre 2016, c'est le clap de fin d'une affaire de trafic de stupes incroyable, ponctuée par une saisie exceptionnelle de drogue. Nom de code de l'opération, B-52. Comme le bombardier américain, et surtout comme les 52 missions menées par les enquêteurs entre 2015 et 2016. Je m'appelle Constance Villanova, je suis journaliste spécialiste en faits divers. J'ai un sévère penchant pour les histoires un peu glauques et surtout pour les affaires criminelles. Vous écoutez le premier épisode de l'affaire B-52. Le 18 mars 2021, j'ai rencontré Antoine, 40 ans. Antoine, c'est ce qu'on appelle communément un grand flic. Sa carrière fulgurante le propulse d'un poste à Grigny dans le 91 jusqu'à la crime et au stup.
Je vois ma hiérarchie. Vous les perdez pas, vous les perdez pas. On n'a plus de radio. On est en dehors de la France, donc on n'a aucun moyen de...
Antoine, c'est une pile électrique. Jamais à court d'anecdotes sur les coulisses de son boulot. Mais Antoine, ce n'est évidemment pas son vrai nom. Après 20 ans à enquêter de dealer en baron de la drogue, il risque gros. L'anonymat reste donc de mise. Le 30 novembre 2016 à Bayonne, Antoine était là, planqué avec ses collègues, avant de saisir cette tonne de coke. Ce moment, il l'attendait depuis un an. C'est Antoine qui a emmené la dizaine de narcos au commissariat de Bordeaux. C'est lui qui a remonté la piste d'un trafic tentaculaire de Miami à Medellín en passant par Biarritz, Madrid et même les territoires des FARC dans la jungle. B-52, c'est l'affaire de sa vie. Celle qu'il a mobilisée avec ses collègues sur une année entière. Celle où il a arrêté le neveu de Pablo Escobar. Avoir accès à la parole d'ex des stupes comme Antoine est rarissime. Échanger avec lui, c'est accéder à une mine d'or d'informations sur un trafic hors norme dont on sait peu de choses.
La drogue, stockée dans un hangar de Bayonne, venait tout juste d'arriver de Colombie par avion privé. Elle s'apprêtait à être revendue en...
La saisie de plus d'une tonne de cocaïne, dont la valeur marchande est évaluée à 100 millions d'euros.
Un trafic international de cocaïne d'une ampleur inédite.
C'est vrai. À part un papier dans Le Parisien et un emballement médiatique d'une journée à la télévision régionale, B-52 a été traité en surface. Comment les enquêteurs ont-ils réussi à remonter à la source de ce trafic-là? Comment ont-ils bossé avec leurs agents américains, colombiens et espagnols? Comment la célèbre DEA a-t-elle dû s'appuyer sur la brigade des stupes de Nanterre pour mettre à terre un cartel international? Bref, comment Antoine et ses collègues ont-ils réussi leur coup? Antoine, l'ex-grand flic jargonneux du 36 et des stupes, et moi, la journaliste accro aux faits divers, nous allons vous raconter l'incroyable affaire B-52, une enquête aux rebondissements tous plus dingues les uns que les autres. Mais les récits qui concernent le 36 sont très souvent traités par des journalistes et des experts hommes. Alors j'ai eu envie de dépoussiérer cette ambiance un peu trop testostéronée. Et puis la dimension personnelle du parcours d'Antoine, le « je suis un homme mais j'ai des fêlures » qu'il cache derrière ses histoires dingues, doit aussi être exposée. Pendant son parcours à la crime, Antoine a vécu deux séparations. Il a dû loger dans sa voiture alors qu'il était officier de police judiciaire. Alors en creux, ce que vous allez découvrir, c'est également le quotidien et l'intimité des flics de la PJ. Ces hommes qui bossent entre eux, entre mecs, et qui consacrent leur vie à leur boulot, au point de sacrifier leur famille et de laisser leurs conjointes et leurs enfants sur le carreau.
On y va.
On est bon ?
Ouais.
Allez.
On est en décembre 2015, t'as 35 ans et tu travailles à l'office des stupes à Nanterre, donc l'Octrice. Et là, en réunion, des agents de la DEA débarquent dans vos locaux. La DEA, c'est la Drug Enforcement Administration, donc l'agence fédérale américaine qui s'occupe des stupéfiants aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous raconter ?
On les reçoit dans notre salle de réunion à Nanterre, donc l'échange après se continue dans notre salle de repos. C'est assez étrange d'ailleurs parce que c'est un endroit avec des télés, des canapés. C'est un lieu de vie un peu pour nous. On y fait même un peu la teuf des fois. Et là, donc, on voit arriver donc ce trio avec le premier, c'est un mec d'1m75. C'est un ancien GI. Il a une coupe un peu militaire. Il vient de Washington. Alors, le mec, c'est de suite, on voit que c'est un Américain. Il parle français. Il a un accent à couper au couteau. Hein. Mais bon, ça, il parle français d'ailleurs, donc ça va nous aider pour la suite. Lui, particulièrement, il vient en mission pour 4 ans en France. Donc, pour eux, c'est très important d'avoir ce type de rapport, déjà avec nous, puisqu'on est quand même leurs homologues en France. Et là, parce qu'ils vont nous annoncer une information qui est assez capitale. Le deuxième, c'est un mec un peu tonique, il parle pas du tout français, avec un gros accent américain. Enfin, tu vois le genre, quoi. Et à ses côtés, il y a une petite nana, c'est une femme du FBI. Et l'anecdote un peu, c'est que son père a créé la DEA dans les années 50. Donc c'est assez impressionnant, enfin, c'est un trio qui pèse, quoi.
Et qu'est-ce qu'ils vous annoncent? Enfin, pourquoi ils viennent vous voir à Nanterre?
Bah, en fait, ils ont repéré les Français qui viennent en Colombie pour se fournir de cam. Et il y a une discussion en cours entre Français et Colombiens, donc ils ont intercepté des lignes. On sait pas trop sur le coup comment ils savent l'information, puis ils sont assez discrets là-dessus. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'ils cherchent un endroit, apparemment, de ce qu'ils disent, pour faire atterrir un avion, qui serait bien chargé, on parle de plusieurs centaines de kilos de cocaïne. Il nous donne quand même comme information que ça serait probablement le cartel de Medellín qui serait derrière tout ça.
Et donc le cartel de Medellín, c'est une organisation colombienne qui a connu son apogée dans les années 80 et qui fournissait 80% de la cocaïne à l'Europe. Et ça a été fondé par Pablo Escobar, le roi du trafic colombien.
Ouais, pour l'instant, nous, on n'en sait rien de tout ça, en vrai. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux. Ce qu'on sait à ce moment-là, en 2015, c'est que la cocaïne, elle se démocratise en France. Et que, pour nous, c'était... on travaille exclusivement sur des mecs de cité qui font des remontées de shit par des GoFast ou d'autres voies de d'autres routes. Et ça, c'est le cœur de notre métier, de base. On a effectivement de la cocaïne qui arrive en France, mais on s'intéresse plus aux Antilles, beaucoup la Guyane, parce qu'on a énormément de mules qui arrivent à l'aéroport de Roissy, par exemple, ou la Martinique, parce que c'est une plaque tournante, vu son positionnement géographique, avec très proche du Venezuela, et la Guadeloupe aussi, voilà, toutes nos îles françaises jusqu'à Saint-Martin.
Mais du coup, Medellín, et vous avez jamais eu affaire à ça, à l'octrice?
On a des Colombiens qui font de l'importation, mais par valise et des mules, mais on n'a pas de cartel, réellement. Du moins, on n'est jamais arrivé jusque-là. Et c'est un peu un fantasme pour un flic des stupes. Parce que quand même, Pablo Escobar, la Colombie, la cocaïne, enfin, c'est des choses qui nous parlent à tous, quoi. Et quand ils viennent nous raconter ça, je vais pas dire que c'est un peu comme un Graal, mais quelque part, ça nous excite tous. Et on veut savoir un peu ce qu'il y a derrière, tu vois.
Et comment vous réagissez? Vous ouvrez une enquête tout de suite?
Alors non, parce que pour le coup, ouvrir une enquête, pour nous, ça nous bloque un petit peu aussi. Parce que si on ouvre une enquête sur quelque chose qui ne se produit pas derrière, déjà, ça va casser peut-être un peu la procédure. S'il y a des événements qui changent en fonction, parce qu'effectivement, les trafiquants sont imprévisibles. Deva nous apprend qu'il va y avoir un rendez-vous. Et eux nous disent, et ils ont la certitude, que des Colombiens vont arriver à l'aéroport de Bordeaux et nous donnent une date avec un rendez-vous, et que c'est les prémices d'un trafic qui serait assez conséquent. Alors ce qui est étonnant pour nous, parce que après on l'a compris, et enfin on va le comprendre un peu avec eux aussi, c'est qu'ils nous parlent de Bordeaux. Or nous, Bordeaux, effectivement il y a des trafiquants, comme un peu partout en France on va dire, mais Bordeaux c'est assez calme. Et encore plus sur la cocaïne. La cocaïne, c'est un peu des grosses métropoles comme Marseille, surtout Paris, parce que les arrivages sont à Paris, et Le Havre ou les gros ports. Voilà, Fos-sur-Mer, que ce soit Montoir de Bretagne, Dunkerque ou Le Havre. Donc c'est ça, c'est des points d'accès pour nous sur lesquels on travaille, mais pas Bordeaux.
Et pourquoi tu penses qu'ils ont choisi Bordeaux justement? C'est parce que c'est pas connu comme une ville de...
Alors, ils choisissent Bordeaux parce que, ça c'est pareil, ils donnent rendez-vous là-bas pour être assez neutre. C'est une zone neutre pour les Colombiens, mais surtout pour les Français. C'est les Français qui ont organisé un rendez-vous chez eux, donc les Colombiens sont invités à venir. Et ils veulent voir, eux, à qui ils ont affaire.
Et donc vous vous rendez à Bordeaux, vous partez à combien? Comment ça se passe le début?
Alors, nous, on est déjà, pour que tu comprennes un petit peu, on a un groupe de 10 fonctionnaires enquêteurs. Là, vu les informations de la DEA et vu le nombre d'objectifs qu'il risque d'y avoir, on descend le groupe complet. Donc on va à Bordeaux, et là on nous annonce que effectivement ça va durer 3-4 jours, que les Colombiens sont attendus à une date, et que ça va être assez rapide. Bon, faut savoir que dans ma vie, voilà, pour que tu comprennes un petit peu mon passé, mon parcours, je suis passé par... j'ai beaucoup de police judiciaire derrière moi, je suis passé par la crime, par les stupes, et j'ai déjà un échec de vie sur une première union, où j'ai des enfants... Et ça, c'est un désastre, quand même, faut l'annoncer. Et voilà, c'est un métier où on donne vraiment, on le fait avec passion. Donc on donne vraiment, c'est vraiment le don de soi. Et là, je viens de me marier, et j'ai un petit garçon qui est tout jeune. Donc du coup, quand voilà, on va comprendre plus tard, mais quand on m'annonce 3 jours, c'est important dans les familles pour pouvoir s'organiser, la garde de l'enfant. Et
comment ça se passe au bout de 3 jours? Tu te rends compte que tu vas rester beaucoup plus longtemps à Bordeaux?
En fait, on y restera longtemps, on y restera 3 semaines. Au-delà de ça, donc le rendez-vous se fait pas de suite. Ce qui va se passer, c'est qu'on arrive à Bordeaux, et les Colombiens, on les voit sortir de l'avion. Donc ça, pour la DEA, ils avaient la date du vol et l'arrivée. Ils sont plusieurs, ils sont 5. Il y en a un qui est un peu à part, qui est vraiment habillé. Il est classe, quoi. C'est la Colombie, c'est Medellín, on est vraiment là-dessus. Le petit Panama, il est habillé en blanc... Il est assez stylé, en vérité. Et on voit à côté qu'il y a 2 hommes de main, un peu comme des gardes du corps. Ils sont endimanchés, ils ont des pantalons en velours. On voit qu'il y en a un, c'est le boss. Ils ont vraiment ce système hiérarchique qu'on a moins en France. En France, c'est plus des associations de gars. Là, on voit qu'il y en a un c'est le patron. Il est habillé, très bien habillé. Il se met un peu en retrait des autres. On voit qu'il y a des gardes du corps autour de lui. Il y a vraiment un cortège autour de cette association. Donc pour nous déjà, c'est pas qu'il y a un côté impressionnant, mais il y a un côté un peu fascination dans les enquêteurs qu'on est, puisque c'est pas des gens auxquels on a l'habitude, c'est pas un public sur lequel on a l'habitude de travailler réellement.
Et donc le rendez-vous a pas lieu tout de suite?
Alors ce qui va se passer, c'est que quand ils sont à l'aéroport, nous on les prend en filature.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Il faut savoir que la DEA, à ce moment-là, nous ont donné deux photos. Donc, il y en a un qui est identifié et comme étant sur les informations indiquées par la DEA.
L'affaire B52 est une série de Paradiso Média, écrite par Constance Villanova et Antoine. Anne-Cécile Kiri est productrice, Louis Daboussi est directeur éditorial, Tim Dornbush et Théo Albaric ont monté les épisodes, John Bose a réalisé les épisodes et composé la musique, Claire Français est responsable de production, Lucine Dorso et Amy Facconi sont chargées de production, l'illustration est de Luc Grieux, Lorenzo Benedetti et Benoît Dunagre sont producteurs délégués.